Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et ce matin, notre invité politique de la matinale est Antoine Ravard. Il est premier secrétaire du Parti Socialiste des Côtes d'Armor. D'Armor, voilà, je vais y arriver. Et il est avec nous ce matin. Bonjour Antoine Ravard.
Bonjour Sylvain Amon.
Voilà, alors je soigne la voix, hein, vous l'aurez compris. Mais ça ne va pas nous empêcher de parler politique ce matin. Et de parler de symboles pour commencer cette interview de la matinale avec cette panthéonisation. C'est le terme choisi de Manouchian et de ses camarades. On y voit un grand symbole, effectivement, de la République reconnaissante à ceux qui ne sont pas nés sur son territoire.
Oui, Stéphane Amon, vous avez raison. Moi, j'ai regardé hier soir, comme des millions de Françaises et de Français, une cérémonie extrêmement émouvante. Un moment fort pour la nation française, puisqu'enfin, la résistance étrangère à l'occupant nazi est entré au Panthéon, parce qu'il faut le rappeler, Missak Manoukian était membre des francs-tireurs et partisans, main d'œuvre ouvrière immigrée, qui était une spécificité dans cette mouvance de la résistance. C'est un moment important de notre histoire, je le disais, et je veux le dire ce matin, parce que ici, en Côte d'Armor, l'année 2023 a été marquée par une recrudescence sans précédent, depuis des décennies, d'actes d'une extrême droite raciste, fasciste, antisémite, avec notamment la profanation et la dégradation de lieux de souvenirs, de mémoire, de recueil, en hommage aux morts de la Seconde Guerre mondiale, juifs, non-juifs, combattants, non-combattants, et notamment de résistants. Et je pense bien sûr au site de la Butte Rouge, profané l'année dernière, non loin d'ici, à Pleuc-l'Hermitage. Et donc je crois que c'est une cérémonie à la fois importante sur le plan du symbole, vous l'avez dit, mais c'est une cérémonie importante sur le plan de la politique et de la cohésion nationale. C'était une cérémonie pleine d'émotions, faisant de Missak Manoukian, qu'Aragon appelait un Français de préférence, enfin un héros éternel de la patrie française.
Avec, j'allais presque dire, un double symbole, alors qu'il y a quelques jours nous quittait Robert Badinter, qui s'est beaucoup battu. Alors, on connaît ses combats contre la peine de mort, pour la reconnaissance de l'homosexualité, en tout cas la dépénalisation de l'homosexualité, mais aussi ses combats contre l'obscurantisme, contre le retour de la haine, hein, c'est ce qu'il appelait de ses mots.
Là aussi, un grand homme, un homme à la carrière professionnelle d'abord, immense, avec des plaidoiries qui ont marqué l'histoire des assises françaises, en tout cas de celles du XXe siècle, contre la peine de mort, beaucoup remportées d'ailleurs avant l'élection présidentielle, avant qu'il se fasse dans une grande lignée historique qui allait de Condorcet, son maître de pensée à Victor Hugo. Il s'est fait finalement le dernier des défenseurs de l'abolition de la peine de mort, et il a eu l'honneur d'être celui qui a eu finalement gain de cause en 1980, quelques semaines à peine après l'élection de François Mitterrand, qui, je le rappelle, petite leçon pour celles et ceux qui nous gouvernent aussi, ont fait cette loi majeure d'un point de vue humain contre les sondages, qui prédisaient qu'une majorité de Français était pour le maintien de la peine de mort. Et on se souvient d'ailleurs des hordes de personnes venues menacer Robert Badinter lui-même de mort sous les fenêtres de la chancellerie, le ministère de la Justice, place Vendôme à Paris. Là aussi, le Parti Socialiste, en ce qui concerne Robert Badinter, a demandé la panthéonisation future. La famille l'a accepté et le président de la République, tant mieux, a dit qu'il y était aussi favorable. Évidemment, ça prendra un petit peu de temps, mais comme vous l'avez dit, Robert Badinter est de ces personnes, et il y en a très peu, qui méritent d'être faire partie de ces grands hommes, puisque c'est ce qui est écrit sur le fronton du Panthéon, tant il a incarné finalement et la nation française, mais l'humanité dans son ensemble, à travers de nombreuses lois, mais notamment les deux que vous avez mentionnées, l'abolition de la peine de mort et la dépénalisation de l'homosexualité.
Avec une grande conscience, parce que c'est une conscience, Robert Badinter, qui disparaît, grande conscience du XXe siècle, du 21e siècle naissant, est-ce qu'il faut être vigilant? Il disait souvent aussi, Robert Badinter, que les combats ne se terminaient pas. Est-ce qu'il faut être vigilant aujourd'hui, alors que Robert Badinter part dans un climat quand même très particulier?
Oui, je crois qu'il faut profiter de ces moments pour rendre hommage, mais pour analyser précisément ce qui était dit et pour écouter les avertissements. Et vous avez raison, l'avertissement principal de Robert Badinter, c'était de dire que les combats que sa génération avait pu gagner n'étaient jamais totalement gagnés et que les générations suivantes devaient poursuivre le combat pour l'égalité, pour la liberté, pour la justice, pour l'humanisme et contre l'extrême droite dans toute son envergure. Et je crois qu'effectivement, il faut que les jeunes générations tirent enseignement des combats de Robert Badinter, qu'il a incarné jusqu'à la fin de ses jours. Moi, je me souviens d'un discours qu'il a prononcé, c'était en 2009, je crois, lors du premier congrès international de lutte contre l'homophobie qui s'était tenu au Quai d'Orsay à Paris. Il avait tenu un discours absolument fantastique où il continuait de porter le flambeau de la lutte contre l'homophobie à l'échelle internationale, puisqu'il y a toujours dans le monde aujourd'hui, même si le combat est gagné sur le plan du droit en France, il y a toujours dans le monde des femmes et des hommes qui meurent parce que homosexuels. Et il y a toujours en France, même si la loi a changé, des femmes et des hommes qui subissent des coups, des agressions physiques ou verbales parce que homosexuels. Donc le combat, bien que gagné sur le point du droit, n'est jamais totalement gagné sur le plan de la morale et des pratiques.
Alors, la vigilance, aujourd'hui on en parle beaucoup de cette vigilance politique à un moment où l'Europe est en train de craquer un petit peu au niveau politique, où l'on voit ressurgir, en particulier dans certains pays, des partis politiques plutôt classés à l'extrême droite. Là aussi, est-ce qu'on a loupé quelque chose? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas su analyser en amont?
Effectivement, il y a une montée de l'extrême droite assez inquiétante en Europe et la France est bien placée malheureusement dans ce phénomène, avec une extrême droite qu'on nous prévoit, si on ajoute les listes, à plus de 40% aux élections européennes du 9 juin prochain. Il y a de l'extrême droite aujourd'hui au pouvoir dans plusieurs pays d'Europe, en Hongrie, en Slovaquie, aux Pays-Bas demain, puisque les élections ont été remportées. Moi, je ne peux pas vous dire... Posteriori, s'il y a des choses qu'on n'a pas su voir, ce que je peux vous dire moi, parce qu'aujourd'hui je suis un homme politique engagé au quotidien, c'est que nous sommes dans l'action, nous, au Parti Socialiste, moi je le suis, dans un territoire comme les Côtes d'Armor, je le disais, où l'extrême droite a longtemps été considérée comme faible, et finalement l'année dernière s'est manifestée, elle se manifeste à la fois électoralement, mais aussi par sa frange la plus violente, comme je le rappelais il y a quelques minutes. Il faut que les partis politiques, le Parti Socialiste en premier, s'engagent pleinement pour déconstruire le récit de l'extrême droite, déconstruire le récit d'extrême droite d'un point de vue moral, bien évidemment, il faut le redire. L'extrême droite, c'est un camp politique qui est raciste. Le Rassemblement national, qui était présent hier, malgré les demandes de la famille d'ailleurs, à la cérémonie de panthéonisation de Manoukian, a été fondé par ceux que Manoukian a combattu, par un ancien Waffen-SS. Et il faut le dire et le redire sans discontinuer. Mais il faut aussi s'attaquer au programme économique et social du Rassemblement national et de l'extrême droite. C'est une illusion la plus totale. Un seul exemple, je sais qu'on en parlera après, mais c'est la question des agriculteurs.
Oui, on va y venir.
Le Rassemblement national se dit être le défenseur de la ruralité des campagnes et donc des agriculteurs. La réalité, c'est qu'ils ont voté la PAC profondément inégalitaire à Bruxelles, alors que la gauche, le Parti socialiste en tête, s'y est opposé. La réalité, c'est que le Rassemblement national et Jordan Bardella à Bruxelles, le premier, votent pour les accords de libre-échange qui créent de la concurrence déloyale en permettant l'importation de produits que nos agriculteurs, eux, n'ont pas le droit de produire dans de telles conditions en France. Tous ces textes-là sont votés par le Rassemblement national. Il y a une duplicité énorme. La responsabilité du Parti Socialiste, ma responsabilité ici en Côte d'Armor, c'est d'aller à la rencontre de tout le monde, des Françaises, des Français, des Bretonnes, des Bretons, et d'expliquer cela, de discuter, d'entendre, de comprendre pourquoi ce discours paye malgré tout, mais sans arrêt de le déconstruire.
Est-ce que justement le Parti Socialiste n'a pas un petit peu, à un temps donné, perdu de vue ce qu'on qualifie d'électorat populaire ?
Bien sûr. Bien sûr que le Parti Socialiste a une part de responsabilité dans les échecs électoraux qui sont les siens et dans l'échec moral qui est le sien, d'avoir effectivement perdu le soutien de celles et ceux que nous souhaitons et que nous prétendons défendre. Mais ça, le Parti Socialiste en a pris conscience. Il y a aujourd'hui une nouvelle génération, au Parti Socialiste aussi, ça ne vous aura pas échappé, qui prend des responsabilités ici localement et puis également à l'Assemblée. Demain, je le souhaite, au Parlement européen, il y a plusieurs jeunes représentants qui ne sont pas encore élus, qui sont très bien placés sur la liste des socialistes pour accéder au Parlement européen. Donc bien sûr, on a une part de responsabilité. Cet aveuglement, il est révolu aujourd'hui et de nouveau, nous tournons vers une analyse du monde et de la société qui nous permettent de parler à celles et ceux que nous souhaitons défendre et donc prioritairement aux Françaises, aux Français qui vivent de leur travail. Ici, les agriculteurs, je l'ai dit, les ouvriers de l'agroalimentaire, les personnes qui travaillent dans les nombreux services que nous sollicitons au quotidien les artisans, les commerçants. Et de nouveau, nous devons porter un discours premièrement dirigé vers eux.
Alors, on a justement cette France qui travaille ou cette France qui souffre aussi, l'électricité qui augmente toujours encore, le gaz, qui a du mal à se déplacer, qui voit pour les plus précaires d'entre eux, en tout cas des citoyens français, la suppression de l'ASS qui va être transformée en RSA, enfin bon, beaucoup de choses qui on a l'impression, touchent quand même les classes les plus populaires et les plus défavorisées avec une précarité qui galope. Est-ce que le Parti Socialiste... Alors, je ne vais pas en prendre le terme de carte à jouer, ce serait franchement indécent, mais en tout cas, doit se saisir de ce dossier-là, des plus précaires, de ceux qui sont finalement au quotidien dans la difficulté.
Absolument, si on ne fait pas ça, on n'a aucune place en politique. Le principe de la politique, moi, tel que je l'entends, c'est à la fois d'unir la nation et d'améliorer la vie de celles et ceux pour qui la vie est le plus compliquée. Et je pense, comme vous le dites, ici, à tous ces Français qui travaillent, mais qui ont un salaire trop bas, pour faire face à l'inflation. On rappelle, même si le gouvernement se gargarise de dire que l'inflation a réduit en 2023 par rapport à 2022, mais faut pas se moquer du monde, excusez-moi l'expression, c'est que ce chiffre d'inflation, il regroupe l'ensemble des produits et des biens consommés en France. Mais la réalité, c'est qu'il faut s'intéresser à l'inflation des biens de première nécessité. Mmh. Et là, elle n'est pas de 5 ou 6%, elle est de 10 ou 15% sur le paquet de pâtes, sur le riz, sur le café, sur l'huile, sur le beurre, sur tous ces biens dont les Françaises et les Français ont besoin au quotidien. Celle sur l'électricité est encore plus massive. Et là, juste deux éléments. Le gouvernement, par la voix de Bruno Le Maire, a annoncé la hausse d'une taxe sur l'électricité qui fera augmenter le prix de l'électricité de 10% cette année. Dans le même moment... les impôts sur les dividendes des meilleures sociétés continuent de diminuer, Il y a une hausse des impôts dans ce pays en France. C'est faux quand le gouvernement nous dit qu'il n'augmente pas les impôts. Il augmente les impôts via des taxes, mais il augmente les impôts sur les plus pauvres d'entre nous, sur celles et ceux qui consomment de l'électricité au quotidien. Il augmente les impôts sur celles et ceux qui ont besoin de leur voiture au quotidien et qui mettent du diesel ou de l'essence dans la bagnole pour aller au boulot. Et ici, on le fait tous et tous. On n'a pas d'alternative. On ne peut pas se payer de voiture électrique ici. Évidemment qu'on ne peut pas se payer de voiture électrique. Donc là, il y a quelque chose de majeur qui se joue à la fois pour avoir une baisse des prix, un contrôle des prix. Et là, l'Union européenne va avoir un rôle majeur. Les élections vont avoir un rôle majeur. Et je rappelle d'ailleurs que grâce au Parti Socialiste, à un député socialiste, il y a une loi de renationalisation d'EDF qui a été votée de manière à ce que de nouveau on puisse contrôler, encadrer le prix de l'électricité qui n'est pas un bien comme un autre. On ne peut pas soumettre l'électricité à un marché complètement dérégulé, à une libre concurrence comme nous l'imposait l'Europe. Ben ça c'est fini, grâce aux socialistes, EDF va être de nouveau renationalisé dans sa plénitude.
Alors, on va parler de l'Europe et de l'Union européenne et des élections, justement, où le Parti Socialiste entend peser. On voit aujourd'hui beaucoup de citoyens français, quand on les interroge dans la rue, qui disent « Bon, ben l'Europe, très bien, on est d'accord, on veut bien rester en Europe, mais pas celle-là, pas cette Europe qui nous oppresse, pas cette Europe qu'on ne comprend plus, qui est très loin de nous. »
Mais moi, je vous dis la même chose.
Voilà, j'allais vous poser la question, justement.
Je vous dis... la même chose, l'Europe à l'origine c'est un projet fabuleux, porté notamment, il faut le dire, par beaucoup de socialistes. C'est un projet qui tourne autour de l'égalité, de la justice et de la paix. L'idéal de la paix, il a été progressivement construit en Europe. Mais la réalité c'est qu'après cela, l'Europe s'est enfermée dans un marché, elle s'est enfermée dans une dynamique qui est purement économique et financière.
On a oublié l'humain finalement.
On a complètement oublié l'humain. Et Jacques Delors lui-même, qui avait fait l'acte unique, pour être technique, qui a donc créé ce marché unique, avait dit lui-même « on ne tombe pas amoureux d'un marché ». Sous-entendu, il devait y avoir derrière un deuxième pilier, qui était un pilier humain, social, qui devait à terme créer le sentiment d'un peuple européen. Ce pilier, il n'a jamais été construit, il n'a jamais été fait. À l'égalité, qui doit être un objectif, on a préféré la concurrence de tous contre tous. Aujourd'hui, le poulet ukrainien vient concurrencer le poulet français, la betterave allemande concurrence la betterave française, dans des conditions d'ailleurs profondément inégalitaires, puisqu'il y a des produits qui peuvent être utilisés. Je parlais tout à l'heure de concurrence déloyale avec à l'étranger, mais y compris en Europe. 25% des produits alimentaires que l'on trouve dans nos magasins ici sont produits dans des conditions qui sont interdites en France. Et je prends l'exemple de la betterave, où nos voisins allemands, le deuxième pilier de l'Union européenne, si j'ose dire, avec la France, a le droit d'utiliser des produits phytosanitaires, chimiques, que les agriculteurs français, notamment du nord de la France, en ce qui concerne la betterave et de la Beauce, n'ont pas le droit d'utiliser. Donc ça, c'est le premier point. On a choisi la concurrence de tous contre tous plutôt que l'égalité. Le projet européen, c'était aussi un projet de liberté, incarné par la liberté de circulation des personnes. Très bien. Mais cette liberté, elle a été restreinte au nom du marché économique parce qu'on s'est rendu dépendant de puissances étrangères. Mmh. On est dépendant de la Russie en termes énergétiques et on le voit aujourd'hui. On aide l'Ukraine en payant des milliards l'Ukraine pour financer une guerre juste et l'Ukraine doit remporter cette guerre. Mais dans le même temps, on continue d'acheter du gaz à la Russie parce que sinon, on n'a pas la capacité de se chauffer.
On entend d'ailleurs des voix qui commencent à être dissonantes, même concernant l'aide à l'Ukraine, en disant oui, on nous demande ici en France, par exemple, d'économiser, de faire attention à tout, alors qu'on distribue des milliards à l'Ukraine. Ça aussi, c'est une petite musique qui peut être dangereuse.
Elle peut être dangereuse, oui, mais je veux la contredire tout de suite. On ne distribue pas des milliards à l'Ukraine pour s'amuser. L'Ukraine mène en ce moment même, en notre nom, à tous, une guerre pour la liberté, pour la démocratie. Ce n'est pas une guerre équitable, c'est une agression menée par un dictateur que l'on connaît depuis près de 30 ans maintenant, Vladimir Poutine, qui, après avoir envahi la Géorgie, la Tchétchénie, a décidé de se rapprocher de l'Union européenne en envahissant l'Ukraine. C'est pas une guerre, c'est une invasion. Heureusement, les Ukrainiens résistent. Ils résistent extrêmement bien, avec beaucoup de courage, à un prix délirant. Hein. Nous sommes à plusieurs centaines de milliers de morts. On rappelle assez peu le nombre de morts, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont déjà morts dans ce conflit. Donc il est absolument normal que les pays européens, que les États-Unis financent l'Ukraine et arment l'Ukraine. Je vais vous dire pourquoi. Parce que demain, si l'Ukraine tombe, on ne se demandera pas si on doit donner de l'argent. Mmh. On se demandera combien d'hommes on envoie au front. Parce que si l'Ukraine tombe, Poutine ne va pas s'arrêter à la frontière de l'Union européenne. Les prochains, ce sont la Moldavie, ce sont les Pays-Baltes, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie. Si nous ne donnons pas des armes maintenant à l'Ukraine pour se défendre et pour défendre l'Europe en notre nom à tous, demain, nous enverrons des femmes et des hommes combattre.
Avec ces bruits de bottes, ces bruits de guerre quand même, on voit que l'Europe se réarme. Et un symbole, l'Allemagne se réarme. On a parlé d'économie de guerre. C'est quand même très anxiogène aujourd'hui. Est-ce que l'Europe doit créer une Europe de la défense très rapidement pour être peut-être un peu moins dépendante de l'OTAN aussi? Il ne s'agit pas de sortir de l'OTAN, mais d'être un peu indépendante de l'OTAN.
Absolument. Je disais tout à l'heure, il y avait deux piliers de l'Europe qui ont été progressivement détruits, l'égalité et la liberté. Le troisième, c'est la paix. On a construit l'Europe de la paix, mais on ne s'est pas donné les moyens d'assurer notre propre sécurité. Parce que là aussi, pour se limiter à un marché commun, à une pure zone financière et économique, l'Union européenne a délaissé sa défense à l'allié américain. À l'exception de quelques pays, la France, le Royaume-Uni et quelques autres pays comme la Pologne aujourd'hui ont des armées encore très puissantes, mais pas suffisamment puissantes pour défendre l'ensemble de l'Europe. Pendant des années, malgré la petite marotte de l'Europe de la défense qui existait déjà, chacun s'est dit finalement si le parapluie américain tel qu'on le nomme, et notamment le parapluie nucléaire, est là, c'est suffisant. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une perspective affolante, désastreuse, c'est le 5 novembre 2024, c'est les élections présidentielles américaines. Et j'alerte tout le monde, Donald Trump, s'il est réélu président de la République aux États-Unis, il l'a dit qu'il encouragerait Vladimir Poutine à envahir les pays de l'OTAN qui ne payent pas suffisamment pour leur défense nationale.
Il a dit également qu'il ne s'occuperait pas finalement de ces pays-là.
Évidemment, il ne s'occupera pas de la défense de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, l'Europe est un nain diplomatique et surtout militaire. Elle a quelques mois devant elle pour faire demi-tour dans cette impasse dangereuse et enfin reconstruire les instruments d'une puissance. Et la puissance, c'est évidemment une armée européenne, une défense européenne. Mais la puissance, c'est aussi une souveraineté alimentaire pour pouvoir s'alimenter, y compris lorsqu'il y a des guerres. C'est une souveraineté énergétique pour arrêter de dépendre de la Russie. Et c'est aussi une souveraineté sanitaire. On en parle un petit peu moins, mais rappelons-nous de tous les débats sur ce sujet, sur la production de médicaments, notamment de masques en France, au moment de la pandémie de Covid, il y a quelques années de cela.
Donc on a compris, une Europe qui se réarme, je reprends le terme, à plusieurs niveaux. C'est court, hein, quelques mois, pour se réarmer, hein, pour faire face dans un contexte géopolitique qui bouge. On voit aussi la Chine qui pose ses pions un petit peu partout dans le monde. Et puis il y a aussi un autre sujet plus épineux, le sujet des migrations, des migrants qui nous rejoignent ici en Europe, qui essaient de venir trouver un monde meilleur. Là aussi, on a l'impression que l'Europe est un peu débordée par cet afflux de migrants. Alors là, il ne s'agit pas de juger, évidemment, mais simplement, comment faire ?
Alors comment faire ? d'abord rappeler deux choses. C'est qu'en début de l'émission, on a parlé de deux illustres personnages, Misak Manoukian et Robert Badinter. Misak Manoukian était lui-même un immigré, Robert Badinter un fils d'immigré. Je veux le dire, puisque c'est un petit peu important de ramener de l'humanisme et un petit peu d'histoire lorsqu'on aborde ces sujets à l'époque actuelle, où ils sont bien souvent abordés d'un point de vue, si ce n'est raciste, à minima xénophobe. Il y a aujourd'hui, il faut poser les chiffres, moins de migrants au pourcentage de la population en Europe qu'il n'y en avait il y a un siècle. Ça, c'est le premier élément. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sujet, mais je veux déjà qu'on le dépassionne, ce sujet. Si on veut de l'efficacité politique, il faut dépassionner le sujet. Mais oui, il y a une priorité aussi aujourd'hui de l'Union européenne, c'est d'être capable de protéger ses frontières, d'être capable de choisir qui rentre sur le territoire national, en ce qui concerne la France, et européen pour nos pays voisins, et puis de mener une politique d'intégration. Mais la politique d'intégration, elle se fait à l'échelle des États. Et là-dessus, force est de constater qu'il y a un échec absolu du président de la République et du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, notamment via la dernière loi immigration. Le Parti socialiste avait défendu des mesures pour l'intégration, notamment deux majeures. Un, que tous les demandeurs d'asile aient accès à des leçons de français et de civisme, du cours de comme on a au collège et au lycée,
voilà, pour pouvoir s'intégrer.
Ça n'a pas été fait. Et deuxièmement, nous demandions une intégration par le travail, c'est-à-dire que ces demandeurs puissent aussi travailler plus tôt, parce qu'aujourd'hui, ils doivent parfois attendre 18 mois, le temps que leur demande soit examinée une première fois, avant d'avoir accès au marché du travail. Résultat, ils travaillent bien souvent au noir, sans être déclarés, et en fait, on est dans une hypocrisie la plus totale. Nous, on sait que les Françaises et les Français sont attachés à la valeur travail, et donc on pensait que le travail, et on pense toujours, le travail est le bon moyen de travailler à l'intégration, à la régularisation. Et excusez-moi de faire la comparaison, mais on le voit ici, et on a aussi besoin d'immigration. Ici, et je le salue, Vincent Lemot, le président de l'agglomération de Guingamp-Paimpol Agglomération, a construit un mécanisme avec l'ambassadeur de Cuba en France pour que des médecins cubains arrivent dans le pays de Guingamp, parce qu'on manque de médecins. Et c'est une forme d'immigration dont on a besoin. Et Gabriel Attal, hier, sur un tout autre sujet, a annoncé qu'il allait faciliter les visas pour les travailleurs saisonniers étrangers dans le monde agricole. On pense notamment aux récoltes dans les saisons les plus importantes de l'année. Donc ne soyons pas hypocrites, la France a besoin d'immigrer. Y compris aussi, dernier mot, d'un point de vue des étudiants et de la recherche. Là aussi, le projet de loi a compliqué la venue de doctorants étrangers, de chercheurs étrangers, d'étudiants étrangers. Pourtant, moi je vais le dire ici, si la France rayonne dans le monde, et ça, Robert Badinter le disait à merveille justement, c'est parce qu'elle est une conscience bien plus qu'une puissance en vérité. La France rayonne dans le monde parce que depuis 1789, elle a décidé d'incarner un message. Chaque fois que la France renie ce message, elle rayonne un petit peu moins dans le monde.
On a encore 5 petites minutes, ça va très vite hein, le matin. Antoine Ravard, on va parler des agriculteurs qui sont dans la rue à nouveau, qui sont en colère, qui ont le sentiment de ne pas avoir été entendus, écoutés. À 48 heures du salon de l'agriculture, j'allais presque dire ça fait désordre.
Oui, alors les agriculteurs se sont mobilisés depuis plusieurs semaines et moi j'ai été... plusieurs occasions, plusieurs jours à leur rencontre, notamment au rond-point de Trémorel, et je les salue si certains nous écoutent, parce que nous avons eu des discussions extrêmement intéressantes, même si nous n'étions pas systématiquement d'accord. Moi, qu'est-ce que je retiens des discussions que j'ai eues avec les agriculteurs sur le terrain, avec les syndicats agricoles, ici et à Paris? Deux sujets. D'abord, une demande de dignité. Moi, je n'ai pas entendu ici de gens condamner l'Union européenne, condamner le pacte vert, comme certains essayent de nous faire croire dans les médias. Ce n'est pas ça du tout que j'ai entendu.
On a même entendu que les agriculteurs étaient à l'extrême droite.
Oui, oui, mais ça, c'est là aussi un discours, malheureusement, y compris d'une certaine gauche. Et vous inquiétez pas que je porte ce message auprès de cette certaine gauche en leur disant qu'ils n'ont absolument rien compris à ce qu'était et la ruralité et le monde agricole. Mais ce que j'ai entendu, c'est une demande de dignité. C'est-à-dire, c'est quoi la situation d'un agriculteur aujourd'hui? Je pense qu'on la connaît ici, mais je vais la rappeler quand même. C'est des gens qui travaillent à peu près plus que tous les autres. 70, 80, 100 heures par semaine. Encore un article ce matin dans le Télégramme sur deux exploitants laitiers à Saint-Gilda qui travaillent de près leur déclaration 12 à 13 heures par jour. Je vous laisse faire le calcul, mais ça fait, si je ne me trompe pas, plus de 80 heures par semaine. Pour un salaire où ils disent qu'ils ne se payent finalement pas, en tout cas au-delà de leur prix de revient. Donc on a des gens qui travaillent plus, qui sont à peine payés, qui n'ont pas de congés, et qui ont le sentiment d'être soumis, et ils ont raison, à une concurrence déloyale. C'est absolument insupportable. Une concurrence déloyale à deux niveaux. Je l'ai abordé d'abord, une concurrence déloyale d'un point de vue commercial, puisqu'on leur impose des règles, notamment écologiques, que l'on n'impose pas à des produits qui sont importés. Donc on a des industriels qui en profitent pour importer des biens venant de l'étranger et pour les vendre moins cher. Donc il y a d'abord cette concurrence déloyale contre laquelle il faut lutter à l'échelle de l'Union européenne. Mais là, il faut aussi être très franc, je l'ai dit, et l'extrême droite et le parti d'Emmanuel Macron ont voté contre pour les accords de libre-échange et pour la dernière PAC, qui sont à l'origine de cette inégalité profonde que subissent les agriculteurs. Le Parti socialiste s'y est opposé et s'y opposera de nouveau demain à Bruxelles. Et puis la deuxième demande que j'ai entendue, la deuxième source d'inégalité, elle est interne. C'est-à-dire que les agriculteurs, c'est des travailleurs, c'est des chefs d'entreprise, ils créent de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, il n'y a pas de secteur dans lequel elle est de manière aussi scandaleuse, aussi mal répartie. Aujourd'hui, les agriculteurs prennent très peu de la valeur ajoutée. Tout va aux transformateurs, aux industries de l'agroalimentaire et aux grandes surfaces qui ne jouent pas le jeu de la loi Egalim. On a vu Bruno Le Maire dire qu'enfin, il allait se battre pour faire appliquer la loi Egalim par ses services.
On parle alors, bien d'une loi Egalim 2. Hein.
La loi Egalim 2, même 3.
Et 3 même.
Et je suis ravi d'entendre Bruno Le Maire dire qu'il va secouer ses services. Je suis un petit peu surpris de voir que sur ce sujet, il faille des mobilisations pendant plusieurs semaines pour qu'un ministre se contente de dire « on va appliquer la loi », parce qu'en réalité, il n'a dit ni plus ni moins qu'il allait se mettre à faire appliquer la loi. Il y a d'autres lois qui s'appliquent bien plus vite. En général, je suis un petit peu surpris qu'il ait eu besoin de ça pour cela. Mais donc, nous, on veut se battre pour que la valeur ajoutée soit mieux répartie. Pour ça, il faut des prix planchers, à minimum au coût de revient. Il n'est pas acceptable que les agriculteurs continuent parfois à vendre à perte. Donc, il faut des prix planchers. Il faut forcer aussi les industries agroalimentaires à négocier les prix d'achat en France pour appliquer la loi Egalim. On sait que le patron de la FNSEA lui-même, Monsieur Rousseau, a été pris la main dans le sac. Il négocie les prix des huiles Le Sieur, dont il est le patron via le groupe Avril, à l'étranger pour pas appliquer la loi Egalim. Il est jugé parti dans cette affaire. Et ça, c'est proprement inacceptable. Donc nous sommes aux côtés des agriculteurs. Moi, je continuerai d'aller à leur rencontre dans le département et je serai la semaine prochaine 3 jours au Salon de l'Agriculture et notamment lundi aux côtés du premier secrétaire du Parti Socialiste.
On va devoir se quitter parce que ça va très vite. Il y a encore plein de sujets, mais vous allez revenir. On parlera aussi des européennes tout au long de cette campagne qui s'annonce. Un petit mot aussi. On parle beaucoup de CNews en ce moment. Voilà, je voulais entendre un petit peu. J'ai posé la question à quelques-uns des invités de la matinale. Je voulais vous entendre un petit peu sur le sujet. Doit-on interdire une chaîne de télévision en France? C'est un petit peu le débat que l'on entend poindre un petit peu dans les médias.
Interdire une chaîne de télévision, non. Et je ne crois pas que ce soit le sujet. Ce que l'ARCOM, l'autorité de régulation de la télécommunication et de l'organisation des médias, en gros pour le dire simplement, a dit à CNews, si j'ai bien compris, et ça je suis d'accord avec la recommandation de l'ARCOM, est que dans les invités politiques, il fallait une meilleure répartition entre les différentes sensibilités politiques. Et ça, c'est un fait qu'il y a malheureusement certaines chaînes, notamment une chaîne d'opinion comme CNews, qui véhiculent des idéologies d'extrême droite sans permettre des avis contradictoires. Or, il s'agit d'une chaîne gratuite. C'est aussi cela la différence avec les chaînes d'opinion que l'on peut connaître à l'étranger, mais qui sont payantes. C'est absolument différent. Et je tiens à insister sur ce point. C'est pour ça d'ailleurs que l'ARCOM a le droit de demander une régulation. C'est parce que c'est une chaîne gratuite, disponible et accessible pour tout le monde. Donc moi, je suis pour le pluralisme dans les médias. Il faut évidemment entretenir la liberté des médias. Et d'ailleurs, j'en profite pour conclure sur les élections européennes, parce que pardonnez-moi, mais c'est la perspective politique, moi, qui m'intéresse en tant que militant, que puisque le gouvernement nous l'a refusé, nous défendrons, nous, à Bruxelles, une loi interdisant la concentration capitalistique dans les médias. Pour le dire très simplement, c'est-à-dire que nous voulons limiter la capacité de certains milliardaires à posséder de trop nombreux médias.
Voilà, alors vous êtes sur Bretagne 5, qui n'est pas possédé par aucun milliardaire.
Et on vous en remercie.
Voilà, qui a aussi un temps d'antenne, on l'espère, le plus équitable possible entre les différentes sensibilités politiques. Et on continuera à le défendre en tout cas. Merci infiniment Antoine Ravard d'avoir
beaucoup
été avec nous. Je rappelle que vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste des Côtes d'Armor. Et vous étiez avec nous en direct dans la matinale. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée.
Bonne journée à vous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.